Comment une ville est-elle devenue mecque de la musique? La réponse tient en un seul nom, Claude Nobs. Claude Nobs, père du Jazz Festival de Montreux, qui connaîtra du 1er au 16 juillet 1994 sa 28e édition. Mais qui est réellement Claude Nobs? Pour répondre à cette question, Claude Nobs est au rendez-vous d'Azimut et de Bernard Leschaud.
Claude Nobs, bonjour.
Bonjour.
Claude Nobs, fils de boulanger, enfance passée à Montreux, et puis, semble-t-il, quand on lit une bio, goût pour la musique très très tôt. À quoi ressemble le petit Claude Nobs à 12 ans?
Oh, c'est même avant, disons, à 6-7 ans, il y avait deux choses, deux éléments musicaux dans la maison. C'était d'une part une vieille radio qui crachait péniblement ce temps, qui était l'émetteur onde moyenne de la radio suisse romande, et ensuite un vieux gramophone à manivelle qui, lui, crachait péniblement la récitation de vieux disques 78 tours, 78 tours que mon père avait acheté au kilo. Et moi, je passais ces disques en remontant la manivelle à chaque disque, et puis je mettais des petites croix sur certains disques, et il s'est trouvé par la suite, quelques années plus tard, quand j'ai commencé un peu à connaître certains noms, que les disques avaient trois étoiles, à savoir ce que j'ai estimé les meilleurs à 7 ou 8 ans, étaient les disques de jazz, Louis Armstrong, Django Reinhardt, etc.
Et puis vous avez une explication à ce déclic, parce que je veux dire, c'est pas évident à 6 ou 8 ans de commencer à se prendre de passion pour des disques.
Non, mais j'ai toujours aimé la musique. À l'école, j'allais à des cours d'éducation de musicale, musique classique. Et la musique classique me passionnait certainement autant que le jazz, sinon plus, puisque j'avais la possibilité, en tant que placeur, d'assister au concert du Festival de musique Septembre Musical en automne. Et c'était évidemment un moyen de découvrir de près, même à 11 ou 12 ans, des chefs comme Furtwängler, des œuvres classiques que j'aurais pas eu l'occasion de découvrir autrement.
On vous voit de temps en temps débarquer sur scène au Festival de Montreux avec un harmonica. Petit, vous pratiquez la musique, l'harmonica ou le piano aussi?
Non, alors j'aurais dû pratiquer le piano puisque à 10 ans, on m'a offert une dame très gentille qui voulait m'enseigner le piano. Mais enfin, elle était très gentille, mais elle était aussi très exigeante parce que si je ne faisais pas mes gammes, elle avait une règle et puis elle me tapait sur les doigts. Et pour finir, elle me tapait tellement sur les doigts parce que je ne faisais pas mes gammes que je me cachais derrière le piano quand elle arrivait. Résultat des courses, ben, je n'ai pas appris à jouer du piano et tout ce que je sais faire, c'est jouer quelques vagues accords de blues. Et comme j'aime bien le blues, j'ai trouvé qu'avec un petit harmonica, on pouvait faire des sons assez sympathiques, assez rigolos dans la tonalité du blues. Alors, on dit que je joue de l'harmonica, c'est pas vrai, c'est quelque chose de très simple à faire quand on a un petit peu le sens du blues, ça n'a rien à voir avec des connaissances académiques de la musique.
Alors ensuite, on sait que vous avez fait un crochet par la cuisine, vous avez travaillé au Schweizerhof de Bâle, vous avez suivi l'école hôtelière à Lausanne, vous avez travaillé au Beau Rivage Palace de Lausanne, des choses assez classes, hein, de manière générale, c'était pas des gargotes quand même où vous travaillez.
Il y a une première gargote, elle n'est pas toujours dans les biographies, c'est que le début de l'apprentissage de cuisiner que j'ai fait par obligation, parce que je n'étais pas très studieux à l'école de commerce de Lausanne, et mon père m'a dit, écoute, je ne veux pas payer des études à flemmard, alors tu me dis demain ce que tu veux faire comme apprentissage. Alors, moins pire que boulanger qui se lève à minuit, j'ai dit, bon, je vais être pas jardinier, je vais être cuisinier, parce qu'on se lève à 7 heures. Et j'ai déjà commencé mon apprentissage au buffet de la gare de Spitz, qui était un établissement fort sympathique. Mais au bout d'un mois, je dois avouer que je connaissais la carte par cœur, et je savais faire les saucisses grillées, les rostis et autres spécialités d'un buffet de gare. Alors j'ai dit à mon père, écoute, ça ne vaut pas la peine, je reste 2 ans et demi ici, j'aimerais quand même connaître un peu plus la cuisine française. Et là, on a trouvé une place à Bâle avec un chef traditionnel, vieille mode, qui refusait les machines à battre la crème, les machines à peler les pommes de terre, enfin les machines quelles qu'elles soient, et surtout qui refusait tout ce qui était synthétique, concentré ou préparé d'avance ou congelé. Donc j'ai appris la cuisine traditionnelle avec les produits naturels, les produits frais.
Qu'est-ce qui reste de ce Claude Nobs cuisinier aujourd'hui? C'est un gastronome ou quelqu'un qui pratique?
Non, bah, il reste surtout que non seulement je continue et j'aime faire la cuisine de manière naturelle avec des produits frais, mais je fais ça sur un fourneau chauffé au bois, Ce qui est beaucoup plus difficile parce qu'on ne sait pas très bien comment la température va se développer. On chauffe un peu son four comme une locomotive et on balade ses casseroles au gré de la température du fourneau parce qu'on a une surface plate. Au milieu où il y a le feu, il fait très chaud, un peu moins chaud de côté. Donc on fait une espèce de balai de casseroles pour faire la cuisson. Je trouve ça très rigolo.
La nourriture, ça reste quelque chose d'important. Vous seriez du genre à partir 15 jours en France pour vous faire la tournée des grands restaurants, ou je dis la France, ça peut être la Suisse ou ailleurs?
Non, disons, pas vraiment la grande bouffe en grosse dose. J'aime bien manger, mais j'aime bien aussi faire, disons, une étape tout à fait tranquille, un bon bout de fromage avec des pommes de terre en robe des champs, puis un bon bout de beurre de campagne. Ça me suffit amplement pour faire un dîner. Donc, c'est pas, disons, la course à des repas à plats multiples. C'est surtout la recherche de choses inédites, de choses nouvelles. Mais je reste assez traditionnel quand je fais la cuisine moi-même.
Du parcours de Claude Nobs, après l'école hôtelière, la restauration et avant la musique réellement, il y a un passage dans le milieu touristique, disons, à l'office du tourisme de Montreux, c'est logique. Ça se situe entre 1958 et 1973, suis-je juste?
Oui, c'était en fait une chance que j'ai eue de rencontrer M. Raymond Jossy, qui était le fondateur de la Rose d'Or, avec Édouard Haas, qui était à l'époque directeur général de la SSR, qui a également été le fondateur du symposium de télévision, et qui m'engageait comme comptable. Bon, j'étais pas vraiment comptable dans l'âme, mais enfin, c'était une position qui était intéressante parce qu'elle me mettait dans le tourisme. Et puis, j'ai pu rapidement faire des petits concerts dans le cadre d'un groupe qui s'appelait Les Jeunes de Montreux, et j'ai fait des concerts de blues qui m'ont un peu mis sur la piste de faire quelque chose de plus important. Et c'est comme ça qu'est né le festival de jazz, qui est né en fait plus par... l'idée de faire quelque chose de différent à Montreux, Montreux était un peu une station oubliée. On parlait des villes anglaises, on parlait un peu de la beauté des quais, des palmiers, mais enfin, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et j'étais toujours furieux lorsque j'allais aux États-Unis, puis je disais, je viens de Montreux, Suisse, elle me disait, ah, Montreux, Lucerne, je dis, non, Montreux, puis personne ne connaissait Montreux, ce qui me mettait vraiment en colère. Et je me disais, est-ce qu'il y a peut-être un moyen de trouver une manifestation qui ait tout d'un coup une dimension internationale, voire mondiale, pour faire connaître Montreux? Et le festival de jazz est né avec un collaborateur de la radio suisse romande, qui était Géo Voumar, chef du service des variétés, René Langel, rédacteur en chef de ce qui était à l'époque la Tribune de Lausanne. Et on a eu l'idée, en fait, on a piqué l'idée à l'Eurovision de faire un concours européen d'orchestre de jazz comme l'Eurovision de la chanson. Et on a eu tous les meilleurs orchestres de jazz d'Europe qui venaient aux frais de chaque radio nationale avec une ou deux attractions américaines. Et puis le vainqueur de l'orchestre, du concours d'orchestre de jazz européen allait au festival qui était à l'époque le plus important au monde, qui était à Newport, Rhode Island. Voilà comment est né un petit peu le festival et comment d'un dérapage à l'autre, de sommelier à garçon d'étage, j'ai passé à comptable et puis à des débuts de promoteur de musique.
Ce qui paraît incroyable, c'est en fait cette espèce d'accélération monumentale qu'a connue le festival entre l'année de sa création, c'était 1967, avec 4 ou 5 formations relativement modestes. Et finalement, en très très peu d'années, c'est devenu un truc énorme avec des dizaines de groupes, de musiciens, des centaines de musiciens. Vous n'étiez peut-être pas conscient de l'importance de la chose au départ, mais comment avez-vous vécu cette espèce d'amplification monstrueuse?
Elle n'a pas été si monstrueuse que ça. Elle a été plutôt suisse. J'entends par là que chaque année, j'ajoutais 1 ou 2 jours. Et non pas, on n'a pas passé de 3 jours à 2 semaines. Chaque année, j'ajoutais une nouvelle note musicale, une couleur musicale, souvent fort critiquée, que ce soit le rock, la musique brésilienne ou le blues. Donc déjà en 1971, on avait déjà 10 jours de festival, on avait déjà Santana, on avait déjà Aretha Franklin, on avait déjà des couleurs vraiment différentes qui sortaient vraiment du mode jazz pur. Ce qui a pris de l'importance par la suite, c'est le côté médiatique, comme on a toujours chercher à enregistrer dans les meilleures conditions possibles sur le plan audiovisuel, tout ce qui vous a montré. Il y a eu des retombées médiatiques importantes aux États-Unis, sur le plan des télévisions dans le monde entier, et c'est clair que ça a aidé à faire connaître le nom. Parallèlement, de nombreux disques de Montreux sont sortis, dont un en 1969 avec Bill Evans en trio, qui a eu la plus haute récompense, le meilleur disque de l'année, le Grammy Award, et premier disque de jazz enregistré en Europe qui a eu cette récompense. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont mis Montreux sur la carte mondiale des événements musicaux. Et puis petit à petit, on s'est profilé, même avec un profil qui n'était pas très pur par rapport aux puristes et qui est encore maintenant critiqué. Et ce profil, j'y tiens beaucoup parce que c'est le seul qui permet d'amener des éléments nouveaux et surtout d'amener un nouveau public. Ça, c'est très important pour moi, c'est que le public de jazz, c'est une chose, et le public du festival, c'est une autre chose. Le public du jazz pur va remplir peut-être une salle de 300 places. À Montreux, il y a 2000 places. Comment est-ce qu'on va remplir 2000 places? Eh bien, il faut intéresser le public jeune, le public rock'n'roll, le public disco, dance, tout ce qu'on peut imaginer de musique à éclatement largement populaire, à quelque chose d'un peu plus sélectif, qu'est le jazz. Et ça a très bien marché en ayant ce mélange des différents styles.
Alors c'est vrai que malgré l'ouverture du festival de Montreux, souvent on associe Montreux à jazz, on oublie un peu aussi qu'à la fin des années 60, début des années 70, Montreux était le temple du pop. Je veux dire, si on pense que sont venus ici Led Zepp, les Pink Floyd, Deep Purple, etc. Quel souvenir vous gardez de cette époque, qui était quand même une époque aussi d'un bouillonnement musical énorme? Vous aviez quel rapport à ce type de musique à l'époque?
Non, mais disons que j'ai eu beaucoup de chance, parce que le premier concert que j'ai fait, c'était bien avant le Festival Jazz, c'était lors de la Rose d'Or de Montreux en 1964. Et c'est un concert que j'ai organisé avec ITV, qui est la deuxième chaîne anglaise, une chaîne indépendante. Et c'était un concert live avec, pour la première fois hors d'Angleterre, les Rolling Stones. Il y avait encore Brian Jones à l'époque. Et il y avait au même programme Adamo et Petula Clark. Donc c'était vraiment un programme un peu bizarre, à tel point que le soir du concert, il n'y avait pas assez de monde avec les délégués de la Rose d'Or. Alors je donnais des invitations dans la rue en disant qui veut venir voir Petula Clark, Adamo, les Rolling Stones, puis les Rolling quoi, ils savaient tomber des nus, alors qu'ils étaient déjà en Angleterre, aux États-Unis, c'était déjà des méga vedettes. Alors j'ai commencé par faire ces concerts-là avant le festival de jazz. Et ensuite, quand le Festival Jazz a débuté, il fallait animer aussi le reste de la saison. Et M. Jossi, le directeur de l'Office du tourisme à l'époque, m'a dit « Mais faites des concerts !» Alors, par les liens privilégiés que j'avais avec les maisons de disques et les musiciens et les managers, j'ai pu amener en exclusivité suisse, voire européenne, des groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Frank Zappa, etc. Frank Zappa, d'ailleurs, est venu en 1971, 6 décembre, à Saint-Nicolas. Et lors de son concert, quelqu'un a lancé une fusée dans le plafond et le bâtiment a pris feu. Et Deep Purple, le groupe de rock'n'roll qui était là, a suivi l'incendie et tout, et a fait une chanson qui est devenue un peu le synonyme de Montreux rock, qui s'appelle Smoke on the Water, et qui encore maintenant est un des grands classiques du rock'n'roll. Donc il y a eu deux démarches. Il y avait le festival de jazz qui se faisait chaque année en juin-juillet, et il y avait la démarche rock'n'roll qui se faisait tout au long de l'année, surtout les mois creux, en hiver. C'était en général des doubles concerts qui attiraient chaque fois 2000 personnes qui venaient non seulement de la Suisse, mais de toute l'Europe.
Smoke on the Water, on en a parlé récemment avec Ian Gillan quand il est venu d'ailleurs à Montreux pour fêter les 25 ans de l'événement. C'était les 25 ans d'événement, je crois, oui.
C'est ça. Il a remis une plaque à la ville de Montreux pour célébrer cet événement. C'était, disons, au départ un événement triste puisque le beau vieux casino a brûlé. Je regrette personnellement qu'on n'ait pas gardé la vieille partie du casino qui était très peu touchée. Alors, on a tout démoli, puis on a fait un truc qui ressemble plus à un supermarché qu'à un casino. Maintenant, on a la chance d'avoir un nouveau bâtiment qui, lui, est assez exceptionnel, avec deux salles modulables. Donc, on est vraiment bien dans nos meubles pour le festival.
Claude Nobs est quelqu'un d'extrêmement modeste, semble-t-il, c'est qu'il ne signale même pas que dans la chanson Smoke on the Water, on fait allusion directe à lui, il est nommé dans le texte, on parle de Funky Claude dans la chanson.
J'aurais préféré avoir eu un pourcent des ventes du disque, je crois que ça aurait été plus utile, en tout cas à mes finances personnelles, non, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai qu'ils ont été très gentils, ils m'ont dédié le disque, il y a ma photo, ils ont pris la photo le jour de l'incendie, alors j'avais à l'époque une grande moustache, elle est vraiment d'un desperado venant d'un état en folie de l'Amérique du Sud, avec des longs cheveux, je me reconnais pas tout à fait.
On peut en venir aussi peut-être à Nobs 1994 avec cette espèce de polyvalence, de choses innombrables que vous faites. Je vais vite résumer comme ça rapidement ce qui me semble être vous et vous me dites si je me trompe, on reprend les points l'un après l'autre après. Il y a évidemment le festival de Montreux, il y a la direction de Warner Music Suisse, donc compagnie américaine avec l'antenne locale que vous dirigez. Il y a la gestion d'une vidéothèque qui sera historique, c'est évident. Que vous stockez, que vous archivez, etc. Il y a un collectionneur, il y a qu'à voir votre bureau et votre maison, ça doit prendre du temps aussi. Il y a l'homme des nouveaux projets, on en avait parlé récemment, vous comptez lancer une série de cafés, et puis un projet d'administration et de création de festivals. Alors on va reprendre peut-être tout ça point par point, mais simplement une question évidemment bête, mais logique, comment faites-vous ? C'est une organisation monstrueuse autour de vous, ou c'est vous qui savez gérer votre temps de manière extrêmement pointue ?
Non, je pense qu'avec les années, on apprend à gérer son temps, on apprend surtout à déléguer. Il faut savoir déléguer, mais en déléguant, il faut se rendre compte d'une règle très simple qui m'a été inculquée par M. Jossi, qui était, lui, à l'époque, un grand ponte dans l'armée suisse. Il dit, la loi dans la vie, c'est CCC. Commander, corriger, contrôler. Commander, facile, 20%. Ensuite, contrôler, ça fait à peu près 40% du temps. Et puis ensuite, corriger, encore une fois, 40%. Donc, il ne s'agit pas simplement de donner des ordres, mais il faut ensuite voir le suivi et corriger pour qu'ensuite les ordres s'exécutent de la manière dont on les a donnés. Et ça, ce n'est pas évident.
Alors, si on reprend les quelques points que j'ai cités tout à l'heure, le festival, on en a déjà un peu parlé. La direction de Warner Music, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est quelque chose, une position que vous teniez à avoir, ce rapport direct avec une maison de disques et avec la création que ça implique ?
Mais d'abord, c'est une position qui me permet de faire le festival de jazz, parce que le festival de jazz, c'est plutôt une passion qu'un élément de mon revenu personnel. Donc, il y a plus de 20 ans, je travaille pour Warner. Non seulement, je m'occupe de la direction de la maison en Suisse, mais également de l'organisation des congrès du groupe sur le plan mondial. Je m'occupe également de nouvelles technologies pour le groupe. Et en fait, c'est ça qui assure ma manière de vivre de manière tout à fait sûre et solide, alors que le Festival Jazz, c'est plus une aventure, c'est plus une passion, et il n'y a aucune garantie de revenus. Depuis 3 ans, avec la nouvelle formule du festival, je n'ai même pas eu de salaire ou d'indemnité. C'est pas le but pour faire le festival. Pour encore une fois, c'est un élément de volonté de faire quelque chose de différent et de passion. Mais Warner, c'est en fait l'essentiel de mon travail journalier.
Et alors, du point de vue pratique, racontez-nous ce qu'est le boulot d'un directeur d'une antenne d'une maison comme Warner en Suisse. Je veux dire, c'est un travail créatif ou travail simplement de représentation d'une grosse boîte ?
Alors, ma position est un peu différente de celle de mes collègues dans le reste de l'Europe, en ce sens que nous avons un distributeur en Suisse alémanique, Music for Trib, qui non seulement distribue les disques, mais a une équipe de promotion, une équipe de publicité, une équipe qui s'occupe des médias, et donc qui fait la vente physique des disques. Ici, nous avons la direction générale avec la comptabilité de tout ce qui est acheté et vendu par le distributeur exclusif que nous avons en Suisse. Mais je m'occupe de relations artistiques avec les artistes. Je vais à tous les concerts de nos artistes. Je peux donner certaines idées ou certains conseils sur le plan de la signature d'artistes pour le groupe sur le plan mondial. Il y a évidemment les séances, notamment de l'IFPI, qui est l'organisation fêtière des maisons de disques dont je fais partie du comité suisse. Je m'occupe beaucoup de la lutte contre le piratage, contre les disques bootleg, les enregistrements illégaux faits en concert, les copies de disques illégales, etc. Ça, c'est aussi une chose qui prend beaucoup de temps. Et il y a d'autres associations auxquelles je participe. Je suis membre de la commission suisse de la musique de la Suiza. Donc, ça représente à chaque fois, disons, un certain nombre d'éléments. Il y a une nouvelle organisation qui s'appelle Swiss Perform, qui couvre, disons, les droits que l'on verse maintenant non seulement aux auteurs-compositeurs, mais également aux propriétaires de droits et producteurs. Donc ça, c'est encore un nouveau volet d'activité. Toutes ces choses-là, évidemment, ça prend pas mal de temps.
Vous parliez des pirates et des bootlegs. Claude Nobs, plus jeune, n'a jamais eu envie d'aller courir les magasins de disques pour s'acheter des pirates et des bootlegs ?
C'est sûr, j'ai acheté beaucoup de bootlegs de Bob Dylan, parce que je suis un fanatique de Bob Dylan, et quand j'ai rencontré son producteur, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi est-ce que ces disques ne sortent pas sur le marché de manière officielle ? Puis il me dit, mais comment ? Il me dit, oui, écoute, il n'y a qu'à sortir officiellement les bootlegs. Ils appartiennent à Dylan, c'est lui qui chante, ce n'est pas celui qui l'a enregistré. Et c'est ce qui a été fait. Quelques temps plus tard, j'ai vu Frank Zappa, que je voyais assez souvent, et qui me dit, oh, tu sais, c'est scandaleux, tous ces disques de mes concerts sur le marché, moi je ne touche rien du tout, c'est fait sans mon accord. Et je lui dis la même chose, sors-les légalement. Tu dis, voilà, les vrais bootlegs, et il a sorti un coffret de 20 CD du concert qui était sorti en bootleg. Donc, on peut tourner le problème, et je pense que le public a envie d'avoir des enregistrements live. Il n'est pas souvent satisfait de la production de studio d'un groupe. Donc, c'est à l'artiste et à la maison de disque à dire, si on veut contrer les bootlegs et les pirates, sortons-nous le produit.
Si on parle de collection, on quitte le secteur des bootlegs et on en vient à la collection Claude Nobs, parce qu'en fait, depuis ou pratiquement depuis que le festival existe, vous faites tout enregistrer et sur des technologies de plus en plus avancées. Là, j'y connais rien, c'est vous qui allez nous raconter. Là aussi, ça a été un point de vue de départ. Vous avez décidé que tout serait sur bande. Vous saviez au départ quelle somme de culture vous alliez pouvoir accumuler ?
Non, c'était, disons, moins de savoir si j'allais accumuler ou pas une somme de culture importante pour futur, c'était simplement deux choses. D'une part, ma frustration en tant qu'amateur de jazz de ne pas avoir visuellement vu des gens comme Billie Holiday ou Charlie Parker. J'ai pas pu aller à leur concert parce que j'étais trop jeune à l'époque. Et ensuite, il n'existe rien, très peu de choses de Billie Holiday ou de Charlie Parker. Charlie Parker, il y a 2 minutes de lui, c'est ridicule. Et je me suis dit, à Montreux, on devrait garder non pas seulement ce qui a été fait pour 2000 personnes qui viennent au concert de Montreux, mais on devrait garder pour la postérité, pour les générations futures, le témoignage audiovisuel de ce qui se fait à Montreux, ce qui représente actuellement plus de 1500 heures de vidéos. Et selon Quincy Jones, c'est la plus grande vidéothèque ou le plus grand témoignage de la musique américaine ces 20 dernières années.
De quelle façon vous allez faire que ces archives ou qu'une partie de ces archives deviennent publiques ou que les gens puissent les découvrir ?
Alors, il y a déjà une partie des archives qui sont sorties en disques commerciaux, il y en a à peu près 300. Il y a une partie des archives visuelles qui sont sorties en vidéocassette ou vidéodisque, c'est très peu, il y en a à peu près une vingaine actuellement de programmes. Mais nous avons un tas de projets, en allant même dans le nouveau domaine dont on parle beaucoup, qui est celui du multimédia, de sortir des CD interactifs, de sortir des CD-ROM avec l'histoire du festival.
Et puis alors, question pratique, on parle toujours du bunker de Claude Nobs dans lequel toutes les archives sont stockées. Vous avez fait construire un lieu pour...
Bon, j'ai surtout fait excaver la montagne derrière mon chalet parce qu'on a remarqué que malheureusement, les archives qui existaient au début à la télévision étaient souvent utilisées comme bandes à recycler et qu'on mettait un match de football sur une bande d'Aretha Franklin ou de la Fitzgerald. Alors, on a récupéré les archives de la télévision, on a racheté les droits de production, on a complété avec ce qui est fait chaque année et puis j'ai simplement mis ça en lieu sûr parce que ce serait dommage que par un incendie ou une inondation ou une autre catastrophe, ça disparaisse. Alors, il y a quasiment tout est à double. On a une partie des archives à Montreux, une partie à Caux, j'habite au-dessus de Montreux. Ce sont des archives qui sont simplement gardées dans les meilleures conditions possibles parce que j'estime que c'est quelque chose que l'on doit aux générations à venir, que les générations qui vont venir puissent dire, bah, tiens, je veux voir Count Basie à la Fitzgerald ou Charles Mingus, et il y aura des archives qui permettront de le faire.
Ce portrait, la personnalité de Claude Nobs, on a l'impression que c'est quelque chose de complexe quand même. Entre là maintenant, on a parlé sérieusement pendant un bon petit moment. On a eu un monsieur qui nous a parlé sérieusement avec un point de vue presque d'homme d'affaires par moment. Et on pense logiquement que vous êtes un homme d'affaires par la force des choses aussi. On se demande même des fois si vous n'êtes pas une sorte de requin, parce que pour mener à bien quelque chose comme le festival de Montreux avec les guéguerres de cachet, etc., que ça implique, bah, il faut avoir ce côté-là peut-être aussi. Et en même temps, quand on vient dans votre bureau, quand on va chez vous, quand on vous voit comment vous êtes habillé, plutôt coloré, dommage qu'on ne soit pas à la télévision, on a l'impression que ce monsieur a une grande passion, une grande jeunesse, une grande vivacité, que c'est un artiste, que c'est quelqu'un qui pourrait être bohème dans sa tête. Comment faites-vous pour concilier ce côté bohème, passionné, et ce côté comptable que vous avez été à une époque ?
Je ne sais pas si vraiment je le contrôle consciemment. Je pense que ce sont des choses qui se font par l'expérience, par le contact avec les gens, par le respect des gens, par le respect des musiciens, par l'intérêt que je porte aux choses, à la musique, aux musiciens, aux nouveaux médias électroniques, aussi bien que je porte à des antiquités, à des objets art déco, à la nature en général. Disons, ma passion de base, c'est quand même la nature. J'ai beaucoup de chance d'habiter dans un coin qui est très tranquille, qui est au milieu des montagnes. Et c'est une manière de me recycler ou de me remettre en forme. Et c'est peut-être par là que j'arrive à lier certaines qualités de management. Requin, oui, parfois, disons que c'est peut-être cette passion de défendre Montreux ou le festival qui m'amène à être extrêmement dur pour obtenir certaines exclusivités, pour obtenir certains accords, qui ne sont pas des accords que je défends avec une position financière très forte, parce que Montreux paye en général moins bien que les grands concerts en plein air, mais que je défends par passion, avec le désir d'arriver à convaincre le partenaire, le musicien ou le manager de venir à Montreux plutôt que d'aller dans un grand machin de 60 000 personnes en plein air.